Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
C'est l'heure d'un tout nouveau journal avec vous, Maxime Gras, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Des scènes d'une extrême violence qui marquent la rétine à Sainte-Soline. Récit d'une manifestation qui tourne à l'émeute. Une mission de lutte contre l'orpaillage illégal termine en drame. Un gendarme a été tué hier en Guyane. La Rochelle se rapproche de Toulouse au sommet du top 14. Les Maritimes ont surclassé Bordeaux et reviennent à 6 points du leader.
Rendez-vous à 7h40 tout à l'heure. Notre invité Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris.
Juste après le coup de main conso, je vous ai préparé un repas bon pour la planète et votre portefeuille. Des bassines au chaos, le pas a été franchi. Ça s'est passé hier à Sainte-Soline.
La deuxième manifestation contre la méga bassine à usage agricole a pris un tournant d'émeute dans les Deux-Sèvres. 4 véhicules de gendarmerie incendiés, mais surtout 5 blessés en urgence absolue, ont été pris en charge au cours des heures qui se sont intensifiées dans l'après-midi. Sur place, les militants racontent la violence de la manifestation. Un reportage de Marion Gauthier et Léna Marjac.
C'est bien, on ne va pas faire des gros embouteillages sur la route pour permettre l'évacuation des blessés.
Des pieds boueux, des traits tirés. Une foule nerveuse s'agite autour des tentes d'infirmerie. Pourtant, beaucoup de manifestants évoquent le calme du début de rassemblement, puis le choc.
On est content de rentrer en un seul morceau.
Valentin est venu du sud de la France pour s'opposer au projet de bassine.
Et, enfin, je ne m'attendais pas à sans partout, toutes les deux minutes, entendre « médic, médic ». Je pense qu'on ne réalise pas encore ce qui s'est passé.
Une journée qui est particulièrement traumatisante et violente.
Mélanie est assise sur un banc, le regard dans le vide.
Moi, ce que je déplore, c'est le fait d'interdire la manifestation. Fait monter une escalade de part et d'autre. Bah, on termine une journée en étant désespéré, pas écouté.
La gendarmerie assure que les assaillants ont fait usage de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov. Elle dit avoir riposté avec 4000 grenades et des lanceurs de balles de défense.
On a eu plus de 3000 forces de l'ordre qui étaient là pour protéger un cratère vide.
S'insurge Adeline du collectif Bassine. Non merci.
Ça ne décourage pas, je pense que ça fait monter encore plus la colère.
Tant que les méga bassines ne sont pas abandonnées, conclut-elle, on sera là pour continuer.
Gérald Darmanin, le ministre d'Intérieur, condamne ces violences et accuse notamment l'extrême gauche d'en être responsable.
En Guyane, la mort d'un gendarme hier.
Membre de l'antenne du GIGN de Cayenne, le militaire était engagé dans une mission de lutte contre l'orpaillage illégal, une infiltration qui a dégénéré. Les précisions de Kevin Gasser.
Le militaire, âgé de 35 ans, père de deux enfants, a été tué par balle dans le parc amazonien de la Guyane sur le site de Dorlin, un des plus prisés par les chercheurs d'or clandestins. Il menait une opération d'infiltration accompagnée de deux autres gendarmes du GIGN, 4 militaires de l'armée et un infirmier. C'est au petit matin hier que le groupe a été pris à partie par une bande armée. Après des échanges de tirs, le militaire touché est décédé malgré les premiers secours prodigués par l'infirmier. La bande armée a été identifiée et est actuellement recherchée. Le parquet a ouvert une enquête. En 2012, sur le même site, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés lors d'une opération anti-orpaillage illégal.
Plus de 1000 opérations ont été réalisées en 2022. D'après les opérateurs miniers locaux, 10 tonnes d'or seraient extraites illégalement de Guyane chaque année par des orpailleurs clandestins.
Et puis, une plainte déposée contre un policier de la brigade motorisée.
Dans le prolongement de l'arrestation musclée d'un groupe de manifestants lundi soir dernier à Paris, l'une des 7 personnes appréhendées a décidé de poursuivre l'agent qui semble le maltraiter dans l'enregistrement diffusé par nos confrères de l'Oopsider. Souleymane, c'est son nom, interpellé pour participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations de biens, nous raconte sa version des faits.
Je dépose plainte aussi contre le traitement spécial qui m'a été réservé. Ils voulaient m'agresser, ils voulaient me parler. Ils ont commencé à me frapper, j'ai été le seul à être frappé. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Au moment où je vais m'asseoir, il a essayé de me frapper pour que je tombe. Après, ils m'ont demandé de se lever pour la palpation. Il m'a attrapé vers le partie génital et il m'a dit « t'as pas de couilles » et tout. Il commençait à m'insulter tout de suite. Quand nous, des personnes de couleur, des personnes des banlieues, dans les manifestations, tout de suite la police, ils veulent nous arrêter, nous. C'est comme si on est leur cible finalement.
Souleymane, au micro de BFM TV, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour violence et menaces.
7h04, les sports, Maxime, et à la une des duels régionaux épicés en rugby.
Avec en tête de liste dans cette 21e journée de Top 14, la gifle rochelaise infligée à Bordeaux dans un duel de l'Ouest délocalisé pour l'occasion au Matmut Atlantique. Les champions d'Europe ont étouffé l'UBB, se payant même le luxe de prendre le point de bonus offensive à la 74e minute. 36-6, c'est le score final, le 6e succès à l'extérieur des Maritimes qui satisfait le talonneur Pierre Bourgarit.
C'est une belle performance, on ne va pas se le cacher. On savait que, vu l'état actuel du classement avant le match, on savait que si on avait l'intention et l'envie de vouloir être dans le top 2, ce qui est notre intention cette saison, ça serait bien de passer par une victoire ici. Alors si on avait gagné 1-0, on aurait pu gagner 1-0, on aurait été tout aussi contents.
Pierre Bourgarit au micro de Nicolas Paolorsi. Ce soir, c'est un autre derby francilien, celui-là, qui va mettre aux prises le Stade français et le Racing 92.
Le cyclisme belge en pleine semaine sainte.
Oui, ils l'appellent comme ça, nos confrères belges. La troisième des cinq classiques flandriennes se déroule aujourd'hui. Ganvevelgem, 260 km chargés d'histoire, puisque les coureurs passeront en plein dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. L'histoire, l'hommage et la fête aussi, avec ses courses courues sur les pavés et adulées par le public flamand. Si l'apothéose aura lieu dimanche prochain sur le Tour des Flandres, Arnaud Souk, cette semaine offre à voir une ferveur sans commune mesure sur les bords de la route.
Oui, le vélo est ici un mode de vie, les courses cyclistes flandriennes, une tradition presque religieuse. Hugo Courvitz les suit, ses courses depuis plus de 30 ans comme journaliste pour le quotidien belge Le Het Nieuwsblad.
C'est dans l'ADN des Flamands, c'est comme Noël, c'est comme Pâques. À la boulangerie, aux boucheries, ça parle partout qui va gagner. Est-ce que Van Aert peut gagner? Est-ce qu'un Belge peut gagner? C'est hot en Belgique, oui.
Des discussions et une ferveur d'ailleurs alimentées ces dernières années par une génération exceptionnelle de grands champions.
Extraordinaire, en tout cas de ce que j'ai vécu moi.
Conséquence, la route était déjà noire de monde avant. Avant-hier, vendredi, pour le Grand Prix d'Arelbeek, autre grande classique flandrienne, comme en témoigne les Vernaessen, coureur professionnel flamand.
Dans mes 9 ans pro, j'ai jamais vu autant de monde sur la course, mais bien sûr, ça vient du rivalité Van Aert, Van Der Poel, le poivre qui s'appelle Pogacar, tout ça, ça fait sortir les gens encore plus que dans l'époque Bonen-Kanchlala.
Nombreux aujourd'hui lors de Ganvevelgem, les Belges devraient frôler le million au bord de la route dimanche prochain pour le Tour des Flandres.
Des supporters qui soutiendront aujourd'hui le local Wout Van Aert, titré vendredi lors du GPE3 et qui retrouvera probablement Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, pour un nouveau duel qui promet.
Et puis des deux roues toujours, mais avec moteur. Cette fois, ça remet les gaz au Portugal.
Exactement, le premier des 21 Grands Prix de la saison de MotoGP s'élancera du Portugal avec deux Français, Johan Zarco et Fabio Quartararo. Ce dernier champion du monde en 2021 et deuxième l'an passé vise le titre, mais il sera seul contre tous et notamment contre les Ducati.
Oui, lors des derniers essais avant la saison, le pilote Yamaha a fini troisième, entouré de 7 motos Ducati dans le top 8. Mais le Niçois semble rassuré par la puissance de sa machine, principal défaut en 2022.
Le plus important, c'est la vitesse de pointe. Le reste, on a un petit peu plus de temps pour le gérer. Yamaha a fait un très gros travail. L'année dernière, c'était chiant. On avait tellement de difficultés sur la moto et voir autant de Ducati devant.
Le tricolore n'a presque pas coupé cet hiver entre vélo, motocross et musculation. Il veut le titre.
J'ai pas peur de le dire parce que c'est un objectif clair. Je m'entraîne pour une chose, c'est de gagner. On ne sait pas si on va le faire, mais en tout cas, il faut partir avec cette mentalité.
Il risque de se battre seul face à toutes ces Ducati et leurs pilotes, comme le champion du monde en titre, Pecco Bagnaia. Pas un souci pour son manager, Eric Mahé.
Si on perd, on sera tous déçus. Par contre, si on gagne avec une machine dont tout le monde sait qu'il y a une certaine lacune, le mérite du pilote n'en est que plus grand.
Et cela tombe bien, Quartararo reste sur 2 victoires à Portimao.
Et sur la grille de départ à Portimao, le Français s'élancera depuis le milieu de la grille. C'est Marc Marquez qui sera en pole position. L'Espagnol aux 6 titres mondiaux a devancé hier en qualification Francesco Bagnaia, le champion du monde sortant.
C'était le journal de Maxime Gras. Merci Maxime.